Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph le 10 février 1987.
L'autre jour, quand nous avons fêté l'anniversaire de la mort de Marthe, je n'ai pas très bien, d'autres moins bien, et bien d'autres qui n'ont peut-être pas du tout connu. Les générations qui montent n'ont pas connu. Et cependant, Marthe, au point de vue providentiel, a joué un rôle très important dans cette volonté, je peux dire ça maintenant, puisque les Saint-Jean, dans cette volonté de Dieu de faire naître cette nouvelle famille religieuse. Alors, si vous voulez, je vais dire un peu ce que personnellement j'ai saisi de Marthe. J'ai prêché 18 ans à Châteauneuf, donc ça faisait quand même quelque chose. 18 ans, la retraite des prêtres, et je crois 14, je ne sais pas exactement, 14 ou 15 ans, avec la retraite des prêtres, la retraite des membres des foyers. Et le père Finet me disait toujours, ce sont les retraites où Marthe prie le plus pour les retraitants. La retraite des prêtres, Marthe l'aimait beaucoup. Et la retraite des membres des foyers, elle l'aimait encore plus. Parce que c'était les pères et les membres des foyers. Et chaque fois, j'avais le privilège de voir quand même une heure Marthe, de pouvoir lui porter la Sainte Communion et réciter le chapelet avec elle le soir, avec quelques-uns que le père Finet choisissait. Et puis aussi, le vendredi, de prier quelques minutes auprès d'elle, pendant qu'elle vivait l'agonie. Marthe se situe, je crois, très profondément dans le prolongement de la petite Thérèse. Quand je dis dans le prolongement, ça ne veut pas dire qu'elle est relative à la petite Thérèse, mais elle était très, très unie à la petite Thérèse, l'enfant Jésus. Elle l'aimait beaucoup. Et de fait, plusieurs fois dans sa vie, la petite Thérèse est venue pour l'aider, la réconforter. Entre autres, une fois où le père Finet, c'était à la fin, où le père Finet avait dû aller à l'hôpital pour une opération. Le père Finet avait été absent pendant un mois et Marthe avait demandé au père Finet de l'enfermer pour que personne ne vienne. Marthe était enfermée dans sa petite chambre qui était dans la, ceux qui ne connaissent pas, qui était dans cette petite ferme. Et il y avait uniquement la fenêtre ouverte, entr'ouverte, parce que Marthe avait besoin de respirer. Elle ne vivait que de l'oxygène. Biologiquement, elle ne vivait que de l'oxygène, puisqu'elle avait la colonne vertébrale cassée en haut. Et donc, normalement, elle n'aurait pas dû continuer de vivre. Elle aurait dû vivre dans un corset d'acier. Il respirait avec un une respiration artificielle. Et de fait, elle n'était pas à l'hôpital, elle était là, sans aucun soin médical. Elle vivait uniquement par la toute-puissance de Dieu. Je crois que c'était un miracle perpétuel, la manière dont Marthe vivait. Elle ne mangeait pas, c'est bien évident. Quand certains médecins ont voulu faire manger, elle a tout de suite vomi, avec des souffrances terribles. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Le père Finet lui humectait un peu les lèvres le matin pour que la langue se colle pas au palais. Et elle vivait de l'Eucharistie, de la présence de Jésus, de la présence de la très sainte Trinité. Elle dormait très peu, pour ne ainsi dire pas. Et pendant les nuits, c'était ordinairement les grandes luttes avec le démon. Et ça, presque tout le temps. J'avais été appelé en 47 par Marthe pour venir la voir. Je savais bien que Marthe existait, c'est évident, mais j'avais pas de raison d'y aller. Et vous savez bien, quand on n'a pas de raison majeure d'aller voir quelqu'un comme Marthe, on n'y va pas. Sauf si la Providence indique, autrement on n'y va pas. On prie pour elle, et puis on sait qu'elle prie pour nous. Il ne faut pas l'avoir hors curieux, tu vois. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas eu un grand désir d'y aller, mais c'était... Je me raisonnais pour ne pas y aller, au point de vue prudentiel. Puis un beau jour, elle m'a demandé de venir, parce qu'elle avait vu quelqu'un que je dirigeais et qu'elle voulait me parler. Alors j'ai vu Marthe en 47, c'était en juillet 47, je revenais de Fribourg. Je l'ai vue pendant une heure, seule. Elle m'a parlé tout le temps du père de haut, de façon très étonnante, très belle, très simple, mais comme si elle le connaissait parfaitement. Le père de haut n'avait jamais été chez elle, n'avait jamais eu l'occasion d'y aller. Le père Caricou était allé envoyé de Rome pour donner un peu son avis. Vous savez bien, c'est là où le père Caricou a eu cette petite conversation avec Marthe, très significative, surtout quand on entendait après Marthe parler du père Néo. C'était d'autant plus éloquent. Je ne le savais pas à ce moment-là. Le père Finet m'avait raconté après cette rencontre de Marthe et du père Finet et du père Caricou. Le père Caricou venant de Rome, Marthe disait tout le temps qu'elle n'aimait pas beaucoup les théologiens, du moins, elle n'aimait pas beaucoup de voir des théologiens. Parce qu'elle avait toujours peur d'être prise en flagrant délit, de dire quelque chose qui n'était pas tout à fait correct. Alors avec le père Caricou, ça s'arrangeait très bien, parce que le père Caricou aimait beaucoup ses âmes toutes données à mon Dieu. Alors Marthe, pris de hardiesse, je dis, mais mon père, vous avez beaucoup écrit, mais vous n'avez jamais écrit sur la Vierge Marie, ce qui n'est pas bien. Le père Caricou a reçu le coup, puis s'est mis à écrire un livre sur la Sainte Vierge. Et le père Caricou, revenant l'année suivante, tout fier, disant à Marthe, attends, ça y est. Marthe lui dit, oh père, vous ne vous êtes pas beaucoup foulé. Alors, c'était évidemment la remarque très pénétrante de Marc, parce que je crois que c'est vrai, le père Caricou ne s'était pas beaucoup foulé. Donc le père Caricou aime énormément la Vierge Marie. Vous savez que le père Caricou était du même noviciat que le père de haut. sortir ensemble. Le père Thau était déjà prêtre. Et le père Thau m'a dit plus d'une fois, heureusement que j'avais compris saint Thomas avant d'entrer dans l'ordre saint-dominique. Ça en dit assez long, ça. Et alors, au noviciat, il s'est trouvé avec le père Garrigou Lagrange, qui avait fait 2 années de médecine. Et le père Garrigou Lagrange avait une idée en tête qu'il fallait réformer tout saint Thomas d'après la biologie contemporaine. Tellement il était épris de la biologie contemporaine. Et c'est le père Thau qui lui a fait comprendre la différence qu'il y avait entre la biologie et la philosophie de saint Thomas. C'est pour ça que le père Garrigou disait « Tout ce que j'ai de bon, je l'ai reçu du père Thau. » C'est vraiment le père Thau qui l'a fait entrer dans la philosophie de saint Thomas et la théologie de saint Thomas. Mais il fallait entendre en même temps le père Thau qui était presque aveugle, donc il dictait. Et quand il écrivait ses livres de spiritualité, qu'il a écrit à la fin de sa vie, quand il ne pouvait plus prêcher. Et alors quand on lui faisait des remarques, en disant, ça manque un peu de précision, alors le père Thau levait les bras. Oh, alors, il me faudra écrire comme le père Garrigou Lagrange. Ça aurait été presque le purgatoire. C'est pour vous montrer combien c'était différent. Le père Thau était un grand artiste voisin musical. Il aimait follement la musique. De façon extraordinaire. De son époque, du reste. Avec... Il aimait beaucoup Wagner. C'était très... Il avait énormément Bach, c'est bien évident. Mais Wagner, c'était celui de ses 17 ans. Sa plus grande joie, c'était quand ses parents l'ont conduit à Bayreuth pour écouter là-bas. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il disait en riant, parce que Cosima, il la connaissait bien. Et alors, il disait, il y a eu un mariage comme ça dans la famille. Un de mes cousins, donc un neveu du père Thau, qui a épousé quelqu'un qui était au même degré par rapport à Cosima. Alors le père Thau aimait beaucoup d'être parallèle à Cosima. Les vieux souvenirs. Donc Marthe, et c'était très beau. La première fois qu'elle m'a vu, c'était tout de suite de me parler du père Thau. Sachant intérieurement que c'était ce lien avec le père Thau, qui était sûrement un des liens les plus forts et les plus profonds. Elle a insisté, mais pour confirmer, pour montrer ce qu'il y avait comme grâce de Dieu d'être uni au père Thau de cette manière-là. Combien le père Thau était un tout petit enfant de la Sainte Vierge, moi je me souviens, c'était l'expression qu'elle prenait tout le temps. Il est dans le cœur de Marie. Et Marie l'aime comme son tout petit enfant. Et elle l'aime profondément. Et ça revenait tout le temps. Alors elle partait de temps en temps sur tel ou tel autre aspect du père de haut. Et me demandant tout le temps, c'est bien ça, c'est bien ça. Et quand je suis parti, Marthe m'a demandé de la bénir. Et puis elle m'a dit, tous les jours, au Saint-Sacrifice, vous prierez pour moi. Je dis, c'est sûr, Marthe. Et c'était comme un lien, je me souviens, après cette visite, cette rencontre. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. ce que c'est que le corps mystique. Je crois que chaque fois que Dieu permet des très profondes unions d'âme au plan spirituel, au plan divin, ça fait comprendre ce que c'est que le corps mystique. Ça fait comprendre de façon beaucoup plus profonde qu'on est du même sang dans le sang de Jésus et qu'on est lié substantiellement qu'à quelque chose de vital. On est porté. Après, je n'ai plus vu Marthe, sauf le jour où j'ai reçu un coup de téléphone étant à Fribourg, du père Finet, me demandant de prêcher la retraite au prêtre à Châteauneuf. Alors, quand je suis arrivé à Châteauneuf, je connaissais parce qu'il y avait été, mais je n'avais jamais été suivre des retraites à Châteauneuf, puisque je suivais des retraites au couvent. Par le fait même, j'ai demandé au père Finet tout de suite. Alors le père Finet m'a simplement dit, vous faites tout à fait comme vous voulez. On vous donnera le règlement habituel, mais si vous trouvez que c'est trop comme prédication, faites tout ce que vous voulez. Je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il faut prêcher sur quoi pour les prêtres? Au fait, comme vous voulez, sans la liberté absolue, et me disant simplement pour m'intimider, je suivrai votre retraite. J'avais envie de dire, non, j'ai pas du tout envie. Je suivrai votre retraite. Alors je lui ai simplement dit, écoutez, je suis très plongé dans Saint-Jean maintenant. C'était déjà depuis un petit moment. Est-ce que vous croyez que c'est bien de prêcher sur Saint-Jean? Oh, très très bien, très très bien, très très bien. Quand j'ai vu Marthe, je lui ai dit. Alors Marthe a confirmé de façon admirable. Et je me souviens comme si j'y étais. Je lui ai dit, Marthe, j'ai un très grand désir dans le cœur. Mais je ne sais pas si je peux vous le dire et vous le demander. Mais dites-le, dites-le. Je voudrais beaucoup venir prier un peu auprès de vous quand vous vivez la passion de Jésus. Alors, la réaction de Marthe, extraordinairement spontanée, comme Marthe pouvait l'être. Ah, ça regarde le Père. Alors, intérieurement, je dis, j'ai fait une gaffe. J'aurais mieux fait de rien dire. Puis, comme je connaissais très peu le Père Finet, je me suis dit, au-dedans de moi-même, et bien sûr que je ne veux rien dire. Pas la peine de. Puis la conversation a continué. Comme si rien n'était. Avec la même simplicité. C'était une telle simplicité, Marthe. On a eu l'impression qu'on la connaissait depuis tout le temps. Pour tout. Pour n'importe quel détail. On aurait pu tout lui dire. C'était extraordinaire. À présent. L'impression d'un contact direct avec Jésus, avec Marie, avec le ciel, avec le Père, et comme une espèce d'antenne, l'antenne du sous-marin qui entrait dans le ciel. C'était extraordinaire simplicité et une rigueur. Quand on répétait ce qu'elle avait dit avec un terme qui n'était pas tout à fait ce qu'il fallait, Marthe reprenait en disant « Ah Père, c'est pas ça que j'ai dit. » Tellement il y avait une rigueur de pensée chez Marthe qui m'a toujours beaucoup, beaucoup frappé. Marthe demandant souvent « Père, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que c'est bien la doctrine ?» Très bon, parce que on avait plutôt envie de lui demander la doctrine de l'Église, elle plongeait dans le ciel et dans la très sainte Trinité. On avait plutôt demandé est-ce que c'est bien comme ça dans la très sainte Trinité? Est-ce que les théologiens disent est-ce que c'est bien comme ça? Alors, dans cette même retraite, la première retraite prêchée au prêtre, j'ai tout de suite vu cette chose très étonnante. Dès que les prêtres avaient vu Marthe Ordinairement, Marthe les renvoyait au prédicateur. Presque toujours. Et Marthe faisait que la retraite devenait extrêmement légère. C'est pas drôle de prêcher à des prêtres. Vous verrez ça plus tard. Prêcher des curés, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et des religieux aussi. C'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'ils sont hyper critiques. Alors, j'avoue que j'avais prêché déjà à des retraites des prêtres. Mais là, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ils étaient nombreux, c'était 150. Et grâce à Marthe, il y avait une espèce de légèreté, de quelque chose de très très simple et de profond. C'était pas du tout une légèreté, de profond. Chaque prêtre était marqué par Marthe, parce qu'elle les aimait tous. Et quand il y avait des difficultés, il y avait des prêtres quelquefois en détresse. Le simple fait de voir Marthe faisait qu'après ils étaient transformé. Et parmi ces prêtres, donc, il y avait le père Fidé. Le père Fidé m'a dit, je suis la retraite, je viendrai vous voir. Parce que c'est normal. Pendant la retraite, on doit voir le prédicateur. Alors le père Fidé est venu. Il ne veut pas me dire ce qu'il va me dire, mais je peux vous dire ce qu'il m'a dit au point de départ. Il m'a dit, père, je viens. J'ai trois choses à vous demander de la part de Marthe. Première chose, pourriez-vous venir vendredi après-midi, quelques minutes, quand je suis là, auprès de Marthe? Alors je dis, vous pouvez venir. Et quoi, c'est Marthe qui vous a dit ça? Oui, c'est Marthe qui me l'a dit. Alors à ce moment-là, je dis, vous savez pas comment ça s'est passé. Je lui ai demandé si je pouvais venir prier quelques minutes auprès d'elle. Elle m'a dit, ah, ça dépend du père. Et intérieurement, comme je ne vous connaissais pas, je me suis dit, c'est pas la peine. Hein. Je fais peut-être une demande complètement indiscrète. Il vaut beaucoup mieux me taire. Alors le père Finet a souri à ce moment-là. Elle m'a dit, oui, ça c'est tout à fait Marthe. Elle a pris votre désir dans son cœur et puis elle me l'a demandé. Et c'est elle qui m'a demandé. Il serait bien que le père Philippe vienne. Demandez-lui de venir. Alors, c'était tout inversé, c'était merveilleux. Oh, là, on comprend ce que c'est que Marthe, la délicatesse de son cœur. Vous voyez, tout ce qu'on pouvait dire, elle le gardait dans son cœur. Mais il y a des choses étonnantes, je ne peux pas tout vous raconter là-dessus, mais des choses étonnantes. Marthe me disant qu'elle priait pour tel ou tel, pour qu'il assiste à la retraite. Et là, je le connaissais, je trouvais que c'était pas comme ça, parce que, vous savez, dans une retraite, il suffit d'un individu qui soit de marbre pour que l'état de glace soit permanent. Un iceberg, ça fait du froid, il n'en est plus le même. C'est déjà un peu vrai comme ça pour les cours. Mais pour les prédications, c'est infiniment plus vrai. Il suffit d'un seul. Et on le sent tout de suite. On a un don, je crois, quand on prêche, de sentir ceux qui sont en état d'opposition. Ça se sent tout de suite. Ordinairement, on essaie de dépasser. Hein. Mais quelquefois, c'est très gênant. Alors, je dis à Marthe, Marthe, vous croyez que c'est bien qu'il assiste à ma retraite? Parce que moi, j'ai l'impression que ça ne lui fait aucun bien. Ça tombe comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Alors Marthe, spontanément, ah, c'est juste que vous le demandez. Ah, je prierai plus pour qu'il vienne. Cette espèce de... Mais aucune, j'allais dire, il n'y avait rien qui lui appartenait. Elle était d'une docilité à l'égard de l'Esprit Saint. Et quand elle croyait que c'est ça, elle le faisait, mais rien du tout, c'était pas de ténacité, non. Cette espèce de pauvreté. Sa Marthe était dans une pauvreté. Une pauvreté avec cette magnanimité, hein, puisque les vertus contraires doivent être dominées par l'être satisfait. On va vois très bien. Je les aime, c'était extraordinaire, ça. C'était magnifique, ça. Il y avait là quelque chose de très grand. La seconde chose, demandez au père Philippe s'il accepte qu'on prenne au magnétophone le rosaire. Je commentais le rosaire, ce que j'aimais beaucoup de Châteauneuf. On faisait une heure de commentaire de rosaire. Certains curés trouvaient que c'était un peu long. Mais ça leur faisait du bien. On était sûr qu'il prit une heure par jour. Et Marthe tenait beaucoup du reste. Marthe tenait beaucoup. Et là, elle montrait qu'elle tenait beaucoup. Je dis que c'est vraiment pas la peine. Marthe le demande. Elle désire vous écouter. Alors, je dis, pourtant mieux, si elle le dit, écoutez, moi, je veux pas lui refuser ça. Et la troisième chose, je sais plus. Ça reviendra, mais je sais plus. Troisième chose comme ça que Marthe demandait. C'était très touchant, du reste. Et puis là, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à la fin de la retraite, je dis ça, c'est parce que c'est entre nous. À la fin de la retraite, selon les coutumes, parce qu'il y a une liturgie de la retraite, n'est-ce pas, Châteauneuf ? Il y a une liturgie de la retraite. Quand t'étais à Châteauneuf, ça va bien. Et il y a la liturgie de la fête. Dernier soir, le repas d'adieu. Et dans le repas d'adieu, il y a chaque retraitant se présente, dit ce qu'il est. Et le père Finet, ensuite, faisait toujours des topos plus ou moins longs, quelquefois assez longs, sur Marthe, en disant comment il l'avait rencontrée, comment il l'avait connue, comment elle était là, qu'est-ce qu'elle dit de Marthe. Alors là, il a simplement dit cette chose qui m'a beaucoup frappé. Mais dit, quand j'ai dit à Marthe que le père Philippe prêcherait sur l'évangile de Saint Jean, Marthe a dit, enfin. Marthe attendait, elle me l'a dit après, pas cette retraite-là, mais elle attendait qu'on prêche sur Saint Jean. Et c'est vrai que la formation, il faut bien se le dire, la formation ancienne, c'était avant tout Saint Paul. Saint Jean, très peu. J'ai eu très peu de cours d'exégèse sur Saint Jean. Très très peu, 3-4, c'est tout. Pour me dire que c'était pas la peine, c'était incompréhensible. Alors à ce moment-là, on se précipite dessus pour essayer de comprendre le mystère de Saint Jean. Un exégète vous dit, c'était un très bon exégète du reste, un dominicain. Le père Synave, qui était un bon exégète, pas du tout farfelu. Mais il y avait de la peine. C'est lui qui avait dit cette chose très spéciale dans son début du cours de Saint Jean. En disant, ne cherchez surtout pas l'ordre dans l'évangile de Saint Jean. Tenez, alors il tenait l'exemple, tenez. Un étudiant m'a remis sa dissertation. Je l'ai mise sur ma table. C'était l'ancien système où il y avait, vous savez, un téléphone pour toute la maison. Nous étions 130. Et le téléphone était en bas à la porterie. Et alors on appelait l'appel morse des pères. On entendait ça tout le temps. Puis tout d'un coup, donc on l'appelle. Il dégringole à toute vitesse l'escalier. Par charité pour celui qui l'appelait, pour ne pas faire payer trop longtemps la communication. La fenêtre était ouverte, on était au solchoir. Au solchoir, c'est le vent du nord, hein, qui est peut-être quelquefois très fort. Le solchoir était tout près de tourner. Quand il rentre, toutes les feuilles s'en vont dans tous les sens. Alors, il se met à les ramasser, puis s'aperçoit à ce moment-là que l'étudiant avait oublié de mettre 1, 2, 3, 4, et il en avait 30. Alors, le père Synave dit, je me mets à lire, chaque page est intelligente, et je vois vraiment pas l'ordre. Et comme je n'ai pas le temps, je remets comme ça au suivant. Je dis, mais c'est bien. Alors il dit, Saint Jean, c'est comme ça. Chaque page est intelligente, mais je ne vois pas l'ordre. Alors ne cherchez pas l'ombre. Il y avait une petite confusion entre le souffle du vent du nord et le souffle de l'Esprit Saint. Ce que dit Jésus à Nicodème, c'est vraiment bêtise. Petite confusion. J'ai beaucoup aimé cette remarque de Marthe. Enfin, je suis revenu après. Parce que j'avais commencé le prologue, j'en avais toute la retraite sur le prologue, vous comprenez? Quand on commence le prologue, on pouvait, surtout pour des prêtres, pousser le plus qu'on pouvait. Alors, chaque fois, je pouvais voir Marthe assez longuement, une heure, ce qui était beaucoup, parce que les retraiteurs la voyaient 10 minutes. Et j'ai jamais dit que je pouvais être au rang des retraitants et que j'abdiquais mon heure. Je ne crois pas que c'est par un manque de pauvreté, mais c'était plutôt considérant que le Seigneur me donne en cette gâterie et ce don. Je voulais prendre le morceau de gâteau le plus gros qui soit. Donc, je suis resté mon heure et quelquefois même plus. Parce qu'avec et par vous interroger du reste. C'était très beau. C'est là où j'ai posé une fois cette question à Marthe. Ça vous intéresse aussi pour vous montrer cette chose très curieuse. Au bout de 10 ans que j'étais à Fribourg, je trouvais que c'était suffisant comme enseignement philosophique. 10 ans enseigner la philosophie, c'est suffisant. Je dis à Marthe, Marthe, 10 ans, c'était peut-être 15 ans, tu vois, c'était peut-être 15 ans. Marthe, vous ne croyez pas qu'il faudrait beaucoup mieux demander à mon père général de ne plus enseigner à Fribourg. Je reçois des quantités de demandes de Carmel, de France, pour prêcher. Je pourrais prêcher largement toute l'année à des contemplatives. C'est quand même plus utile pour l'Église de prêcher à des contemplatives que de faire un cours de philosophie. J'étais sûr qu'en présentant la chose comme ça, Marthe serait de mon côté. J'étais sûr, mais c'est sûr, et toi, ça n'importe qui. Marthe a dit, Père, non. Non, vous êtes plus utile à l'Église en faisant vos cours de philosophie à Fribourg que de prêcher à des contemplatives en France. Ça, j'étais complètement abasourdi quand j'ai reçu ça. Que Marthe dit ça, cette mystique si enracinée dans le mystère de Jésus, de Marie, de la très sainte Trinité, puisse dire ça. Alors je lui dis, Marthe, quand vous dites ça, vous me le dites vraiment de la part de Jésus. Elle a gardé le silence quelques minutes et puis elle m'a dit, oui, Père, vous devez rester à Fribourg et enseigner la philosophie. Évidemment, ça me donnait une très grande force parce que c'est une confirmation qu'il fallait rester là, qu'il fallait s'y donner à fond. Le Père Thau m'avait déjà dit ça. Je sais pas ce que le Père Thau aurait dit. Je lui avais dit, je quitte Fribourg pour enseigner. Je sais pas ce qu'il a dit. Je vais simplement raconter ce petit épisode. Alors il a été très content. Il a été très content. Il dit, c'est bien. Oui, il faut rester à Fribourg et enseigner la philosophie. C'est pas toujours très drôle, mais il faut le faire. Pour l'Église. J'ai compris après. Si j'avais quitté Fribourg à cette date-là, la communauté Saint-Jean n'aurait jamais existé. Il fallait enseigner la philosophie pour que ensuite la communauté Saint-Jean puisse naître. Et c'est vrai. Parce que l'enseignement de philosophie a cet immense avantage que toute espèce d'étudiant peut venir. Dans type de théologie on réclame d'être envoyé par les évêques. Alors, il fallait qu'il y ait des étudiants qui viennent un peu comme ça, partout, n'importe comment, pour qu'ils viennent vers leur licence, puisque c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont venus vers leur licence. Et puis, ils sont, après avoir passé leur licence, ils ont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas rester sous votre direction. Et c'est à ce moment-là, ayant connu le père, Philip Marie, comme étudiant de théologie à Fribourg, comme j'étais trouvé son évêque pour lui demander s'il pouvait laisser le père Philip Marie faire son doctorat de théologie et en même temps s'occuper des jeunes qui étaient là. Et puis évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été tellement pris tout de suite dès le point de départ que le doctorat est tombé à l'eau, dans le lac. Dans un des lacs, ou dans tous les lacs. Et vous voyez, Marthe, là, a été extrêmement nette. Quelques années après, quand je lui ai dit, Marthe, il y a des étudiants qui me demandent si je peux continuer de m'occuper d'eux, qui forment un petit, ouais, petit groupe, une petite communauté. Est-ce que vous croyez que c'est bien ? Marthe m'a dit oui, c'est bien, faut le faire. Je dis oui, mais ils s'accrochent à moi et moi je peux pas leur promettre conduire au sacerdoce. Alors, c'est lourd comme responsabilité. Et c'est pas commode. Alors, va-t-il accepter, on verra. Puis, chaque année, ça revenait. Jusqu'au moment où je lui dis, Martin, il faut des décisions maintenant, il faut faire quelque chose. Vous croyez qu'il faut faire quelque chose? Demandez à Jésus s'il faut faire quelque chose. Alors, là encore, je lui ai demandé si c'était bien du Saint-Esprit. Quand elle m'a dit oui, il faut faire quelque chose, il faut les prendre. Vous soyez responsable d'eux et il faut trouver le moyen de les rattacher à l'Église. Alors, à ce moment-là, elle m'avait déjà parlé, ou plus exactement, je vais parler de l'oblature. Elle m'avait dit très bien, c'est par l'oblature. Et c'est comme ça qu'il y a eu les Reims. Mais elle m'a pas dit du tout, c'est les Reims. Marthe ne disait pas. Marthe confirmait. De temps en temps, elle vous disait. Et quand on lui posait une question, elle répondait nettement. Mais ordinairement, elle confirmait. Elle ne disait pas ce qu'il fallait faire. Pour les reins, ça m'a laissé patauger pendant un an. Pour la plature, on a cru d'abord que c'était les chanoines du Grand Saint-Bernard. Puis après, on se demandait avec champagne. Puis on se demandait encore autre chose. Et c'est quand j'ai dit les reins, Marthe a dit oui, ce sera très bon pour eux et très bien pour vous. C'est comme ça qu'il y a eu les reins. Marthe connaissait du reste les Reims, elle connaissait bien le père Joseph. Et c'est le père Joseph qui a eu l'initiative, il ne faut pas l'oublier. Moi, je n'aurais pas osé non plus demander l'initiative. Parce que c'était pour des contemplatifs, accepter ça, c'était pas très commode. C'est le père Joseph qui a dit, mon père, pourquoi pas nous ? Je dis, je ne demande pas mieux, moi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et Marthe était là pour dire c'était bien ça qu'il fallait faire. Oui. À chaque tournant, Marthe indiquait, confirmait. Et chaque année, ceux qui désiraient entrer dans la communauté Saint-Jean, ceux qui étaient décidés, puis le petit noyau du début, les saints du début, à la retraite des prêtres, je leur demandais de venir à Châteauneuf. Et puis, on avait un moment réservé pour voir Marthe. Tous ensemble. Pour que chacun se représentait à Marthe. Pour que Marthe les prenne chacun dans sa prière. Et c'est comme ça que le début s'est fait. Et au début, il y a eu les premières années, ça a progressé un peu. Mais je me souviens, je crois que c'est la troisième année. Oui, on était 15. Il y a eu une demande de 15. Je dis à Marthe, c'est de la folie. 15, on veut doubler. C'est de la folie. Comment voulez-vous qu'on puisse assumer ça? Marthe m'a dit, ah, il faut les prendre, il ne faut pas les rejeter. Ah non, on n'a pas le droit, il faut les prendre. Si Dieu les mène à vous, vous n'avez pas le droit de vous les refuser. Ah, j'ai commencé à comprendre comment il fallait faire. Non pas une sélection, mais recevoir ce que la Sainte Vierge envoyait. Puis si on voit au bout d'un certain temps, eux ou la congrégation, que ce n'est pas ça, on leur dit très simplement. Et Marthe était pour ça. Ça, c'est bon. S'ils vivent un an, deux ans, trois ans avec vous, mais c'est bon. Faut pas vouloir d'avance mettre un trop grand discernement. Il y en avait raison. C'est, j'allais dire, par l'expérience même qu'on s'aperçoit de cela. Et je crois que c'est très juste, surtout pour aujourd'hui. On a besoin d'expérimenter, on a besoin de voir. On a besoin de s'acclimater progressivement à ce que ça représente. Vous voyez que la communauté est née auprès de Marthe. D'abord parce qu'elle m'a dit de rester à Fribourg. Deuxièmement parce que de fait, progressivement, tous ceux du début ont toujours été présentés à Marthe. Et Marthe les a pris dans sa prière. Alors quel est le grand mystère de Marthe? Parce que c'est vrai, je crois que pour l'Église de ce 20e siècle, elle était née en 1902. Le père Finet avait 4 ans plus qu'elle. Le père Finet est du siècle précédent de la fin, tandis que Marthe est du début de ce siècle, 1902. Donc elle a vu pratiquement ce siècle. Elle a porté Vatican II de façon étonnante, avec un désir intense que Marie soit proclamée mère de Dieu, mère de l'Église, que Marie puisse être proclamée par le Concile. Elle l'a demandé à Jean Guiton et elle me demandait tout le temps de prier. De façon très très forte, ça. Quand une petite histoire à propos de l'élection du Saint-Père, c'était tellement joli. Ça coïncidait, l'élection de Jean-Paul Ier coïncidait avec une retraite de prêtre. Alors je vois très bien, j'arrive, je dis bonjour à Marthe. Marthe me dit, alors Père, quel est votre candidat? Alors je dis, Marthe, n'en est pas, mon candidat c'est le candidat du Saint-Esprit. C'est bien, il faut avoir le candidat du Saint-Esprit. Alors, cependant, Marthe disait, ah, priez beaucoup pour le candidat du cardinal Tiantum. Je demandais une petite explication. Elle dit, le cardinal Tiantum m'a envoyé un télégramme en demandant de beaucoup prier pour cela. Vous savez que depuis Paul VI, les cardinaux se réunissaient 8 jours avant le conclave. Alors qu'avant, il débarquait pour le conclave. Paul VI a réformé ça de façon sage, que les cardinaux puissent se connaître avant. Hop, il s'invite. Et le cardinal Tiantum, qui connaissait un peu ce que représentait l'Église à ce moment-là, le cardinal Tiantum avait son opinion. Il a été tout de suite trouvé Monseigneur Lucchini. Il lui a dit, Lucchini était, selon les journalistes, en 24e position. cardinal Tiandou a tout de suite été trouvé, le Tchini. Et lui a dit, Monseigneur, Excellence, c'est plutôt dans le style du cardinal Tiandou, Excellence, si vous êtes nommé pape, est-ce que vous accepteriez? Moi, pas, mais non, non, vous vous trompez. Monseigneur, si vous acceptez, si on vous élit pas, parce que vous acceptez. Mais je vous dis, j'ai aucune chance, mais je suis 24e, vous êtes. J'ai aucune chance, monsieur. C'est le cardinal Tiandou qui me l'a raconté. C'est pas discret, c'est une scène politique. Divine. Est-ce que vous accepteriez? Oui, je trouverai que c'est un signe de Dieu, puisque il n'y a aucune chance. Du reste, voyez-moi, ces 8 jours, je n'inviterai personne. Je les vis en prière. C'est une retraite que je fais. Je n'invite personne. Tous les autres cardinaux s'invitaient mutuellement pour voir, surtout les 8 premiers.
Mystère de
comme pour saint François, le Christ avec des dards, venant de ses plaies, qui l'a marqué pour l'éternité. Et puis ensuite, elle a repris la position de quelqu'un qui était. Vous pouvez pas vous donner la main, Marthe. Je me souviens une fois de petite étudiante de Paris que je connaissais. Les étudiantes de Paris, vous voyez bien. Elle m'avait dit, mon père, je voudrais tellement voir Marthe. Oh, est-ce que vous ne pourriez pas, je dis, écoutez, je peux vous faire admettre à une retraite. Je crois qu'on acceptera. Et puis là, j'essaierai. Oh, mais si ce serait tellement merveilleux pour moi, j'en ai besoin. Désir chez elle. Alors, elle vient, elle est inscrite sur la liste. Et sur le moment d'inscrite sur la liste, elle dit, tape à ma porte, père, je dois y aller, j'ai une sévrousse. Est-ce que vous ne pouvez pas venir avec moi? Je dis, très très bien, je ne demande pas mieux de venir avec vous. Comme ça, je verrai encore une fois de plus Marthe. Très très bien. Alors, sur la route, elle cueille des fleurs. Elle vient les apporter à Marthe. Elle pensait que Marthe allait les prendre. Elle dit, mettez sur mon lit, je ne peux pas les prendre. Alors, en petite étudiante, je parle de Marthe, quand vous avez de la chance de ne jamais manger, parce qu'il paraît qu'elle ne mangeait jamais. Alors, Marthe, vous croyez que c'est de la chance? Puis elle parlait de ses amis. Alors Marthe, amis, ou amis, tout court. Marthe l'a poussé, c'était délicieux ce petit dialogue entre les deux. Pour qu'elle puisse comprendre. Elle a été très très frappée de cette rencontre. Et je comprends très bien. Elle était étudiante en médecine. Elle est partie de là en disant, c'est fou de rencontrer quelqu'un comme ça. Et ça l'a frappée au plus intime d'elle-même. Stigmatisée, mais c'était pas ça qui est le plus extraordinaire dans Marthe. C'était son union profonde, intérieure, sa vie intérieure, sa vie mystique. Alors là, c'était vraiment quelque chose de très très beau. Marthe expliquant, n'est-ce pas, que au début, quand elle était très prise, elle était comme séparée, et progressivement, tout en étant de plus en plus prise, elle était moins séparée, plus présente aux autres, tout en étant très prise. Ce que Sainte Thérèse appelle, n'est-ce pas, jouer sur les deux claviers, et on voit très bien, le clavier contemplatif, et puis on est quand même présent. Dans la charité fraternelle. C'est très beau ça, parce que ça fait comprendre ce que c'est que déjà un peu le point de vue du ciel, intra-verbum, extra-verbum. Et Marthe avait cette vie contemplative. Marthe, je crois, parmi toutes les stigmatisées qu'on connaît, était celle qui a été le plus loin. Et c'est pour ça que je crois que ce qui caractérise le mystère de Marthe, c'est le mystère du sépulcre. Vous voyez, tout est stigmatisé, c'est le mystère de la compassion. Mais la compassion implique trois volets, si j'ose dire. L'agonie, la croix, la crucifixion et le sépulcre. Les trois sont inséparablement unis. Mais les trois représentent quand même quelque chose de particulier. Et ce qui m'a toujours beaucoup frappé au point de vue théologique chez Marthe, c'est que c'était vraiment le mystère du sépulcre. J'allais dire, même extérieurement, elle était dans sa petite chambre, toujours noire. Parce que depuis 40, elle était aveugle pour la France. Et elle ne pouvait pas supporter la lumière. Elle serait tombée évanouie, disait le père Finet. Si elle supporte, si on avait éclairé, ça qu'on faisait grande attention quand on entrait chez elle, de ne pas ouvrir la porte sur la clarté, la cour. Il fallait toujours que l'autre porte soit fermée pour qu'il n'y ait qu'une demi-lumière. Et c'est vrai que Marthe ne pouvait pas supporter la lumière. Elle vivait dans le noir, avec la petite fenêtre ouverte pour respirer. Elle avait besoin de ça, d'une respiration. Donc elle vivait comme dans un sépulcre. Et quand le père Finet a été absent pendant un mois, elle a vécu pendant un mois sans voir personne, donc comme dans un sépulcre. Et c'est là où la petite Thérèse est venue la voir pour la réconforter parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. On comprendrait bien humainement parlant. Et c'est elle qui l'a demandé, hein, c'est pas assez. C'est pas du tout le père Finet qui a imposé ça. C'est elle qui supplie le père Finet, qu'il n'y ait personne qui vienne la déranger. Qu'elle puisse être seule. Voilà. Tout un mois. Et c'est, je crois, ce point de vue intérieur de sa vie contemplative. Du reste, c'était ça, c'était toujours cela que Marthe, sur lequel Marthe revenait. Et ça, ce point de vue-là, c'était très parallèle au père de haut. L'oraison et Marie. Et Marthe, c'était l'oraison et Marie. Je me souviens, c'était, je prêchais de temps en temps dans des certains foyers de charité, et là, un père de foyer de charité m'avait dit, voyez tel membre du foyer, c'est pas très commode, je me demande s'il ne faudrait pas mieux qu'elle entre au Carmel. Plutôt que de rester dans le foyer. Alors, il m'avait demandé de lui dire, c'était plus facile pour moi que pour lui. Alors, je lui dis ça. Alors, il me regarde en me disant, mais non, j'ai la vocation du foyer, j'ai pas du tout la vocation du Carmel. Puis on discute. Alors, j'ai rapporté ça à Marthe. Parce que je me demandais si j'avais bien agi ou pas. J'ai rapporté ça à Marthe, et puis c'était normal, elle était la mère de tout, les filles et les fils du foyer. Et alors Marthe me dit, ah, si elle vous a dit ça, ça prouve qu'elle n'a pas la vocation du foyer. La vocation du foyer, c'est la vocation du Carmel. Elles doivent toutes être comme des carmélites. Elle me l'a dit nettement, je ne lui demandais pas. La vocation du foyer, c'est le Carmel. C'est l'intériorité et le dévouement. Et le silence. C'était très beau, c'est très grand, je me souviens. C'était pas du tout. Non, évidemment, chaque fois que je devais prêcher, et que pratiquement, après toutes les retraites, il y avait toujours des engagements, je demandais à Marthe si c'était bien. Je demandais au père Finet si c'était bien. Parce qu'il fallait entrer à fond dans l'esprit des foyers. Et chaque fois, Marthe confirmait oui. C'est le mystère de Marie. Et c'est vrai, je prêchais le mystère de Marie, et c'était le mystère de Marie. Et donc, c'était le mystère du Carmel, qui est le mystère de Marie. Et je crois que c'est ça qui caractérisait la sainteté de Marthe, le mystère de la compassion, avec cette modalité particulière du sépulcre, qui est l'ultime moment de la compassion. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Ce mystère du sépulcre tel que Marthe a vécu. C'est dans ce sens-là que je crois que Marthe est quelque chose de très ultime dans l'Église. Vous savez bien ce que Marthe avait reçu dans sa prière. Jésus lui avait dit, personne depuis Marie n'a été aussi uni à la passion que toi. Et plus personne après ne sera aussi uni. Et donc, le Seigneur faisait le lien entre Marthe et Marie. Un lien direct, puisqu'on est unis, dans la mesure où on est unis à la passion du Christ. Et le Seigneur disait, personne n'avait été aussi uni à la passion. Et après, plus personne. Mais ça fait comprendre, je crois, l'intensité de foi, d'espérance et d'amour dans le cœur de Marthe. Et cette intensité, elle demande d'être cachée. Et elle était cachée, très cachée. Et c'était vraiment, je crois, ce mystère du sépulcre que Marthe a vécu. Séparation de l'âme et du corps. Ce très grand mystère du sépulcre. C'est pour ça qu'on doit aimer spécialement ce mystère du sépulcre. On sent que Jean m'a aimé. C'est dans le sépulcre que Jean a redécouvert sa foi plénière en la résurrection.